Bonjour à tous, c'est Alicia du blog 36 solutions contre l'épuisement. Aujourd'hui, on va voir ensemble des petites astuces et des informations pour savoir comment réagir en période de crise. Donc aujourd'hui, c'est le podcast de la semaine 30, donc la 30e technique que je vous propose dans le cadre du défi du cordonnier. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Quand ça chamboule tout ». Donc en période de crise, comme aujourd'hui, en fait, j'ai écrit cet article en situation de confinement pendant la crise du coronavirus. Donc c'est vraiment une période que tout le monde a traversée et traverse peut-être encore actuellement. On est tous passés par des étapes différentes au niveau émotionnel pendant cette période. Et pour autant, ce qui était important pour moi, c'était vraiment de malgré tout continuer mon habitude d'écrire un article sur des techniques pour arriver à ce que chacun puisse trouver ses propres ressources pour un bien-être émotionnel au quotidien. Donc cette semaine, comme les autres, j'avais vraiment à cœur de transmettre à la fois de l'espoir, de la bienveillance et toujours des pistes de ressources. Ce que vous allez peut-être avoir vécu, moi ce que j'ai vécu en tout cas, c'est vraiment des sensations d'être à flux tendu. Une impression de grande fatigue. On est tous peut-être un peu éreintés. On a l'impression de partir au quart de tour. Dès qu'il y a une petite étincelle, ça nous fait bondir. En fait, c'est nos émotions vraiment qui prennent le dessus. Dans cette situation de crise, on va voir que d'une situation de crise à l'autre, il y a vraiment des choses qui reviennent. Et puis, vous allez voir aussi qu'en fonction de qui on est, l'âge qu'on a, notre sensibilité, de là où on vient, ce qu'on a pu expérimenter, on va vraiment réagir de manière différente. Pour autant, il y a un petit schéma qui revient d'une personne à l'autre. Et j'ai essayé de vous mettre dans cet article et dans ce podcast une petite compréhension, donc des informations sur comment ça se passe pour un être humain en situation de crise. Et dans un deuxième temps, on verra ensemble des petites techniques. Donc vous aurez à piocher à l'intérieur de ces techniques-là en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc j'ai toujours pas de solution idéale, hein. Je vous écris moi où j'en suis et ce que je pense. J'essaye d'être le plus exhaustif possible, mais ce n'est pas possible d'être complètement exhaustif dans cette situation-là, parce qu'on vit tous des choses différentes et qu'on est tous des personnes différentes. Donc ce que je peux vous dire de mon point de vue, c'est que quand j'ai écrit cet article, j'étais en situation... J'avais en tête en fait l'histoire du petit colibri. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous connaissez cette histoire. C'est une légende qui a été racontée à nouveau par Pierre Rabhi. Vous pouvez le retrouver dans le mouvement des colibris. Et en fait, je vais juste vous lire cette histoire, vous allez comprendre tout de suite. Donc un jour, dit la légende, c'est une légende amérindienne. Il y eut un immense incendie de forêt. Et tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Donc c'est vraiment cette histoire-là qui m'a habité pendant que j'écrivais cet article, parce que pour moi, je sais que ça va être certainement une petite goutte d'eau dans un océan. Pour autant, j'avais besoin de faire ma part et de vous partager ce qui peut m'aider. Il y aura peut-être d'autres choses la semaine prochaine, mais en tout cas, actuellement, ce qui peut m'aider en pensée ou en action pour traverser cette crise. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec quelques éléments au niveau de notre fonctionnement psychique en situation de crise. Donc en psychologie, par exemple, on définit la crise comme un changement brusque et décisif dans le cours d'un processus. Voilà, donc changement brusque, décisif, dans le cours d'un processus. Et comme exemple de crise, on peut avoir donc une maladie qui nous touche individuellement. Ça peut être aussi, vous savez, les pertes quand on perd un être cher, donc une perte brutale. Et ça peut être, comme aujourd'hui, donc une crise d'ampleur générale. Un effondrement d'institutions, une crise sanitaire, une guerre, voilà. Tout ça, ce sont des périodes de crise pour l'être humain. Et la crise, en fait, elle est vécue comme un point de rupture et elle peut être aussi associée à des sensations de menace vitale. On se sent vulnérable il y a quelque chose en nous de notre crainte au niveau de la vie et donc de crainte au niveau de la mort qui est convoquée. Et en fait, cette sensation, même si elle peut être la même chez tout le monde, son niveau, son ampleur va être différente. Il y a des personnes en fait qui vont réussir à passer complètement outre cette première sensation. Chez d'autres, ça va être une angoisse. Il y a des personnes qui peuvent avoir des bouffées d'angoisse. Souvent, ça peut arriver le soir ou quand les personnes se retrouvent seules. Donc, il y a une montée comme ça d'angoisse qui va venir. Chez d'autres, ça va être quelque chose de complètement anecdotique. Bah, peut-être parce qu'ils ont déjà vécu des choses d'une grande ampleur et donc ils arrivent un peu plus à se raisonner et à relativiser. Dans le processus de crise, on peut généralement retrouver à peu près les mêmes étapes. Il y a une étape souvent de sidération. Quand on prend conscience de ce qui se passe, il y a une sidération qui se fait. Donc on a l'impression de plus avoir de mots en fait pour expliquer ce qu'on ressent et ce qui se passe. Et comme si notre pensée était stoppée. Voilà. Et après coup seulement, on va reprendre nos esprits. Et là, on va pouvoir reconnaître ce qui se passe en nous, arriver à mettre des mots sur les sensations. Donc on se sent perturbé, chamboulé, on a l'impression peut-être d'être déprimé, voilà. Donc toutes ces sensations, ces sentiments-là vont venir après le moment de sidération. Ce qui se passe aussi en situation de crise, c'est que l'être humain va mettre en place des moyens d'action. Et le but, c'est vraiment de pouvoir agir dans un mode de survie. Peut-être que ça va vous parler, ça, le mode de survie. Est-ce que vous avez vu, je pense, dans les médias, à la télévision, vous avez peut-être entendu à la radio, vous avez peut-être été confronté même à ça quand vous êtes rendu en ville au début du confinement. Des actions, des comportements, mais complètement démesurés, inhabituels, avec, je sais pas, de l'agressivité. Donc je pense notamment aux situations où les personnes prenaient d'assaut les magasins pour faire des achats complètement démesurés de pâtes, de produits alimentaires de base, par exemple. Et en fait, ça, c'est des choses qui, pour certaines personnes, va faire complètement bondir notre représentation du civisme. On se dit, mais c'est pas possible, ce sont des gens qui... ils réagissent de manière animale. Et en fait, oui, effectivement, ils réagissent de manière animale, de manière instinctive, parce qu'en fait, la crise, elle induit en nous un déclenchement qui est comme une alarme et qui va provoquer chez nous la stimulation de notre cerveau archaïque. Donc le cerveau reptilien, c'est justement là où on dit archaïque, c'est vraiment le cerveau animal en nous. Et pourquoi ? Eh bien, parce que la crise génère de l'angoisse. Voilà. Et donc, c'est instinctif et c'est pas pensé, c'est pas raisonné. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont réagir vraiment de manière agressive et animale, parce qu'en fait, c'est ce que ça connecte chez nous. Alors, bien entendu, on peut le comprendre sans l'accepter. Pour autant, c'est important de le comprendre, parce que comment est-ce qu'on peut réagir à ça sans avoir compris ? C'est un peu compliqué, parce que ça va faire bondir chez nous de l'agressivité aussi, de percevoir ça chez les autres. Et c'est pas forcément la bonne solution, en fait, dans cette situation. Donc, je vous apporte ces pistes-là pour comprendre, pas forcément accepter, mais savoir comment mieux réagir en ayant compris ça. Et si vous avez été vous-même en situation d'avoir des comportements agressifs, des comportements de mode survie animale de ce type-là, comme ça, vous allez aussi mieux accepter ce qui vous a traversé et la manière dont vous avez agi. Parce que c'est quelque chose de naturel. Voilà, votre cerveau a été connecté de cette manière-là. Il a été touché au niveau archaïque, au niveau animal. Et donc, il y a une grande diversité de réactions d'une personne à l'autre. Parce que justement, on a des personnes différentes, qu'on a des vécus différents. Il y a des personnes qui vont mieux relativiser, c'est-à-dire qui vont avoir la sidération, peut-être le mode survie au départ, mais qui est resté au niveau des émotions sans passer par l'action. Et ça dépend vraiment de qui nous sommes, hein, de l'âge que nous avons, de nos expériences, etc. Et ce que ça va provoquer chez nous aussi, c'est d'autres types d'actions. En fait, pour nous, en situation d'angoisse, donc on va réagir différemment. Et le but, c'est d'arriver à éviter le chaos, c'est-à-dire que en fait, comme ça nous contacte, nous, au niveau des craintes de mort, hein, la menace vitale, pour éviter ce chaos-là, interne, on va solliciter nos ressources. Donc habituellement, nos ressources, elles peuvent être externes, c'est-à-dire qu'on a notre environnement proche, nos amis, les personnes qui nous sont chères, On a plus globalement l'autre sphère un peu plus extérieure qui va être les institutions, je sais pas, notre environnement de travail, notre patron, ça va être la société globalement, qu'est-ce qui va être porté par notre président de la République, qu'est-ce qui va être porté par les médias, etc. Et donc on a plusieurs sphères comme ça, donc ça part de nos ressources internes, et après si nous on est dépassé, on va venir chercher chez nos êtres chers, autour de nous, nos proches, un petit peu de ressources. Si ces êtres sont dans le même état d'angoisse que nous, on n'a pas de soutien, on n'a pas de canalisation de nos émotions, on va les chercher à l'extérieur, qui va être plutôt les institutions, etc. Et en fait, en situation de crise telle qu'on la vit aujourd'hui, tous les systèmes là, environnement proche, être cher, institutions, société, ils sont tous touchés. Donc ça va amplifier notre angoisse. Parce qu'en fait, habituellement, on pouvait trouver nos ressources à l'extérieur. Et là, en fait, tout est ébranlé. Et donc forcément, l'angoisse, elle est plus massive pour nous. Donc ce qui pouvait réguler nos débordements au préalable, là en ce moment c'est vraiment compliqué parce qu'en fait tout est touché et donc on a moins de possibilités, a priori, de trouver des ressources. Donc cette crise elle est difficile à vivre parce qu'en fait nous sommes des êtres humains et que les êtres humains ont besoin de rapidement trouver un équilibre. En fait quand on est touché, ça nous déséquilibre au niveau interne, notre psychisme va ressentir le déséquilibre, la menace, et donc va rechercher cet équilibre. Et ce bouleversement-là, en fait, il amène naturellement notre corps et notre cerveau à rechercher l'équilibre. Et ça, il va le faire constamment, parce qu'en fait, tant qu'il n'y aura pas d'équilibre, il va continuer à chercher et à puiser dans nos ressources internes et externes des moyens pour arriver à retrouver l'équilibre. Donc, il va se mettre en branle au niveau physiologique, au niveau psychologique et au niveau sociologique. Et oui, c'est difficile à vivre. Et pour certaines personnes, c'est insupportable. Voilà. Donc si la crise dépasse nos limites hein, de personnes, nos limites internes, donc comme dans la situation actuelle, eh bien, la difficulté supplémentaire de trouver nos repères à l'extérieur, d'avoir perdu nos repères directs, nos habitudes par exemple quotidiennes, ça on a perdu tout ce qui nous rassurait en fait, je sais pas, il y a des personnes qui vont être passionnées de sport, ils peuvent être stressés dans leur travail et quand ils vont aller courir, ça va décharger les émotions, les sensations désagréables et ça va les remplir en fait de force, ça va les remplir d'à nouveau de cette légèreté, en fait ça leur permet vraiment de prendre de la distance avec ce qui se passe dans le monde du travail. Là, on est touché à tous les niveaux, parce qu'il y en a qui sont en télétravail, il y en a qui travaillent mais au contact des personnes malades, donc ça crée du stress, il y en a qui sont obligés de garder leurs enfants et qui n'ont pas forcément l'énergie pour pouvoir le faire H24, donc c'est très compliqué. Et donc, on va chercher ces ressources, on va essayer de les trouver. Le problème, c'est que ce qui nous aidait jusqu'à maintenant, comme d'aller faire du sport, de jardiner peut-être dans un à l'extérieur, etc., et qu'il y a des personnes qui ne vont plus pouvoir faire ces habitudes. Alors, on le verra plus tard, il y a des habitudes qu'on peut garder, mais ceux qui vont avoir des habitudes qui sont touchées par la crise ne vont pas réussir à se ressourcer comme ils pouvaient le faire habituellement. Et donc là, le vécu angoissant et la fatigue, elle va être décuplée. Comment font les êtres humains, quand il n'y a plus de repères et de ressources extérieures pour vivre la crise? Eh bien, là encore, il y a des différences de l'un à l'autre. Il y a des personnes qui vont avoir recours à des moyens de défense. Donc, on appelle, en psychanalyse, par exemple, on appelle les mécanismes de défense. Mais finalement, en psychologie, on retrouve souvent cette même idée, qui n'a pas le même nom. Mais en gros, c'est un système de défense. C'est comment est-ce qu'en interne, on arrive à trouver de la ressource pour traverser une épreuve. Et donc, il existe en fait des ressources qui sont adéquates pour arriver à réguler notre état, pour arriver à retrouver un équilibre. Et c'est d'ailleurs l'objet du site 36 solutions contre l'épuisement, c'est que chacun puisse arriver à trouver des ressources qui lui sont indispensables et d'avoir de nouvelles idées de ressources et apprendre petit à petit à cheminer pour trouver ces ressources et pour arriver à traverser les épreuves, quelles qu'elles soient. Et donc en situation de crise, il y a des choses qui sont bien adaptées, il y en a d'autres qui vont être moins bien adaptées. Sauf qu'on est des êtres humains et qu'on a voilà, des accès différents et des possibilités différentes d'induire, de stimuler ces ressources. Donc ce qu'on retrouve habituellement, ça va être une modification de notre comportement, une utilisation donc, des systèmes de défense. Alors dans les systèmes de défense, il va y avoir par exemple le recours à l'humour. Vous avez dû observer qu'il y a des personnes en situation de stress ou de crise, eh ben, ils vont beaucoup faire de l'humour. Humour noir ou autre, hein. Mais ça va leur permettre vraiment de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe. Et c'est une façon de transformer le moment pour mieux le vivre. Il y a d'autres personnes qui vont le transformer en quelque chose de beau. J'ai vu une amie sur Instagram, je vous mettrai le lien dans le blog, qui a commencé un journal de confinement. Et en fait, elle a pris un carnet et chaque jour, elle s'adresse au lecteur d'Instagram. Elle écrit « Cher journal de confinement » et elle fait un dessin de l'endroit où elle se trouve, donc de son appartement ou autre. Et en fait, elle fait de ce moment de confinement où eh ben, finalement, il y a plein de choses qui ne lui sont pas possibles puisqu'elle doit rester chez elle. Elle en fait quelque chose de beau. Elle le sublime, ce moment. Et effectivement, elle fait quelque chose de magnifique. Et les artistes, souvent, utilisent ce mécanisme de défense. Ils vont utiliser le moment difficile pour en faire quelque chose de beau, quelque chose qui peut servir, ou juste quelque chose qui permet, en fait, à leur art de s'exprimer. Ça peut être aussi un mécanisme qui ouvre les personnes vers les autres. Donc les actes d'altruisme, ça aussi, on peut le voir beaucoup. Il y a certaines personnes chez qui ça a été spontané, et pendant ce moment de crise, il y en a d'autres qui ont vu que certaines personnes allaient vers l'altruisme. Donc l'altruisme, c'est vraiment s'ouvrir aux autres, aider son prochain, trouver des astuces pour soutenir. Et en fait, c'est quelque chose qui est très contagieux, l'altruisme. Et on a vu, enfin moi j'ai pu percevoir qu'au début sur Facebook, il y avait assez peu de... Enfin, il y avait quelques prémices de mouvements altruistes et que maintenant, en fait, il y a des groupes qui se sont créés, des gens qui diffusent... plein de solutions pour s'aider les uns les autres, et c'est magnifique. Et ça, c'est vraiment un mécanisme de défense qu'on peut retrouver aussi. Donc voilà, et il en existe encore plein d'autres. Et donc il y a ces possibilités-là pour réagir à la crise, et il y a aussi la possibilité pour certaines personnes qui n'arrivent pas à faire face, par exemple, de s'extraire de la situation. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont souvent fragiles. Donc on a du mal à le comprendre quand on est aux côtés de ces personnes-là, mais il y a des personnes qui ont vraiment besoin de couper. Elles ne peuvent pas en fait faire face à ce qui se passe, et du coup elles vont essayer de s'extraire de la situation. Alors comment s'extraire ? Bah, y a des personnes qui vont malheureusement utiliser les addictions pour fuir. Il y a des personnes qui vont se raconter des histoires, voilà, qui ne sont pas la réalité, mais en fait, c'est tellement pas vivable pour eux d'être confrontés à ce qui se passe. Ils vont déclencher comme ça des mécanismes qui les coupent complètement de ce qui se passe et de ce qui les angoisse. Voilà. Donc tout ça, c'est des... Et il y en a encore bien d'autres, hein, des manières de réagir, mais ça, c'est des exemples pour mieux comprendre ce qui peut se passer chez chacun. Il y a autre chose qui est important de dire, que j'ai lu dans les ouvrages qui parlaient de la crise, et c'est un peu le point peut-être positif. C'est un peu tôt de parler de positif pour le moment, même si bah justement il y a tous les mouvements altruistes qui amènent vraiment du positif, mais pour autant la crise aussi, il y a quelque chose qui est semblable d'une crise à l'autre, c'est que lorsqu'il y a crise, il y a changement. Et la plupart du temps, lorsqu'il y a crise et qu'il y a changement, le changement, il tire des conclusions et des conséquences de ce qui s'est passé avant pour aller vers du mieux. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans la littérature de la crise, c'est vraiment cette notion de changement qui est pour moi, je trouve, assez positive. Il y a quelque chose qui est vraiment très important à savoir aussi, c'est que après la période de sidération et d'angoisse, on peut arriver à élaborer ce qui se passe, à réfléchir, et en fait pour arriver à l'étape du changement, il y a des choses qui sont nécessaires, en fait. C'est-à-dire que pour retrouver l'équilibre, il y a des étapes qui sont nécessaires. Et pour ça, la plupart du temps, ce qu'on retrouve de commun, c'est qu'il faut arriver à accepter de vivre les émotions qui ont été suscitées par la crise et aussi à pouvoir les exprimer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est notamment très important parce que, par exemple, lorsqu'on est sous l'emprise de la colère, on n'est plus rationnel, on ne peut plus raisonner. Et on a l'impression, quand on est en colère, qu'on a la vérité et qu'il n'y a qu'une vérité et que c'est la nôtre. Et on peut être justement dans une agressivité, une violence qui est justifiée par notre colère et en fait on n'est plus du tout à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et à l'écoute des autres. Pour sortir de cette colère ou de cette peur ou de cette tristesse, etc., hein, ça marche aussi pour les autres émotions et les autres sentiments, pour sortir de cette émotion, il faut pouvoir accepter qu'elle soit là et il faut pouvoir du coup mettre un nom dessus et l'exprimer. Vous allez me dire, comment faire pour pouvoir exprimer cette émotion ? Eh bien pour ça, effectivement, il faut un espace. Il faut un espace pour pouvoir exprimer ces émotions. Cette peur, cette colère, ce dégoût, il faut que vous puissiez avoir un espace pour le faire. Quand on est à des proches, ça peut être important de se diriger vers la personne qu'on sait qui sera à l'écoute pour nous. Ça peut être, on le verra la semaine prochaine, ça va être l'objet du prochain article, écrire. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne très très bien d'écrire. On peut utiliser par exemple le mécanisme de sublimation dont je parlais au début, transformer cette émotion-là en quelque chose, hein, en faire quelque chose de concret. Tout ça, c'est des possibilités de la reconnaître, de l'exprimer. C'est important de pouvoir aussi reconnaître et d'exprimer nos ressentis. Donc, je parle d'émotion quand je parle de peur, de colère, de dégoût, là, on parle vraiment de l'émotion. Les ressentis, c'est ce qui va nous rester, ce qui va perdurer un peu plus longtemps, qui peut nous habiter pendant plusieurs minutes. Dans les ressentis, je parle de déception, sentiment d'injustice, la crainte, l'ennui, la terreur, toutes ces choses qui peuvent nous habiter en situation de crise. C'est vraiment cette étape-là de reconnaissance et d'acceptation et d'expression, c'est vraiment ces étapes-là qui sont importantes et essentielles. Ce que je voulais ajouter aussi, pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe pour nous en situation de crise, ce qui est très difficile à vivre, c'est que la crise, en fait, elle active chez nous vraiment des angoisses profondes, des inquiétudes qui concernent notre santé, qui concernent celle de nos proches, qui concernent notre vie professionnelle, sa stabilité, qui concernent aussi tout ce qui est de l'aspect social, nos contacts aux autres. Et en fait, ça se répercute sur nous, ça se répercute sur tout notre environnement. Et toutes ces craintes et toutes ces peurs sont légitimes. Et ça, c'est important. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. C'est-à-dire que là, vraiment, ce que ça suscite chez nous d'émotions et de ressentis, ce sont des choses qui sont légitimes. Voilà pour la théorie. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut en faire. Parce que c'est bien beau, toute cette théorie, mais nous, on veut du concret. Donc là, on va venir vraiment dans du concret. Vous avez là compris la diversité des réactions, l'ampleur, l'histoire de la stupeur, hein, de la sidération, le désordre qu'il peut y avoir dans les débuts. Maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut en faire, même si on est toujours dans la tourmente, comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions ou des pensées qui vont nous permettre de tendre vers un mieux-être. Donc concrètement, on fait comment ? On sait tout ça sur la crise, on sait qu'on a besoin de retrouver des ressources pour traverser la crise. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une chose qui est importante à savoir, donc de la même façon qu'on a des manières différentes de réagir, on va avoir besoin de choses différentes selon qui on est et ce que l'on vit. Par exemple, si vous êtes de celles et de ceux en fait, qui sont en train d'agir concrètement pour combattre la crise, l'accompagner, si vous êtes des soignants, des personnes de l'aide à la personne, des éducateurs, etc., que vous êtes en fait confrontés à la situation, au virus par exemple, que vous êtes dans l'accompagnement des personnes malades, si vous êtes en train de gérer la stabilité d'une entreprise qui a pour but de continuer à maintenir une vie possible pour les personnes qui sont confinées, si vous êtes vraiment au contact en fait de ce qui se passe, ou alors si vous êtes plus en retrait, si vous êtes assez éloigné de la crise, vous êtes peut-être dans confinement mais que finalement tout s'est goupillé pour que vous puissiez rester chez vous et vous occuper de vos proches et que vous êtes un petit peu en distance, ou encore si vous êtes vous-même malade, les besoins que vous allez avoir au niveau émotionnel et au niveau des moyens d'action vont être très différents. Donc là, je vais rentrer dans quelque chose qui est assez délicat, c'est-à-dire que j'essaye de m'adresser à tous, sauf que là, concrètement, je ne vous vois pas, je ne sais pas à qui je m'adresse, donc ça va être compliqué pour moi de savoir exactement de quoi vous avez besoin maintenant, vous qui m'écoutez. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un article qui va être le plus malheureusement général possible, même si je sais que c'est pas forcément ce dont vous avez besoin, mais moi je vous encourage, si vous avez besoin de choses plus précises, de me laisser un message par exemple, que je puisse vous répondre plus concrètement. Là sur le podcast, je vais être vraiment plus générale. Je n'ai pas envie que vous vous sentiez mis de côté, donc c'est un peu compliqué, mais pour autant je suis obligée de faire un choix, donc je vais essayer de rester assez générale, de quand même essayer d'explorer différentes possibilités de ce que vous pourriez vivre pour vous apporter des ressources différentes. Cette difficulté-là, de m'adresser à vous de manière générale tout en essayant d'aller vers du spécifique, c'est quelque chose qui est commun à tous mes articles et c'est ce qui fait que un blog, un article, ne remplace absolument pas une rencontre ou un entretien avec un professionnel de santé. Quand vous êtes vraiment en détresse, en grande difficulté, on ne peut pas en fait sauter cette étape-là. On a besoin d'aide, il faut aller chercher de l'aide vers les personnes qui sont formées. Et moi je suis formée, mais à distance comme ça, ce n'est pas possible de vous aider. Donc ce que je peux faire, c'est vous laisser des pistes, et puis vous vous en saisissez selon l'étape où vous en êtes et qui vous êtes. Et par contre, si ça dépasse la notion de mal-être, si on est vraiment là dans de la détresse, n'hésitez pas à sauter le pas, d'aller vers un professionnel de santé pour un entretien, une rencontre, c'est vraiment important. Les vidéoconférences en ce moment se multiplient, il y a des outils vraiment qui fonctionnent bien, qui sont pas à maintenir sur le long terme, mais là, ponctuellement, quand vous en avez besoin, mais allez vers les psychologues qui font des téléconférences, des vidéoconférences qui puissent au moins vous écouter, et ça c'est vraiment important. Donc maintenant, je vais tracer en fait des pistes qui vont être à moduler en fait pour vous, en fonction de votre situation, de votre état physique, de votre état mental, des circonstances que vous vivez, des responsabilités que vous avez aussi. Voilà, donc la liste n'est pas exhaustive. Je vous laisse suivre les liens vers les autres articles aussi, parce qu'il y a des choses qui ont déjà été traitées, vers lesquelles vous pouvez aller, tout à fait. Et ça vous fait des compléments d'informations. Et ça vous fait des compléments aussi de technique. Donc n'hésitez pas à aller voir l'article du blog qui a été écrit pour aller voir les différents articles à l'intérieur qui puissent vous apporter davantage de ressources, si vous voulez approfondir. Voilà, donc je vous proposerai de cette manière-là de creuser certaines questions. Et de la même manière, on peut voir par la suite dans d'autres podcasts et dans d'autres articles des choses à préciser. Mais pour ça, il me faut un retour de votre part. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer des mails. C'est vraiment important pour moi pour pouvoir continuer à vous faire du contenu. Alors, une piste de solution, une piste de technique possible, c'est le découpage du temps. Je peux entendre des personnes qui me disent que pour le moment, c'est l'incertitude qui est vraiment difficile à vivre pour elles. Donc, elles me disent, ce qui est difficile à vivre pour moi, c'est cette incertitude de ne pas savoir où on va, de ne pas savoir combien de temps va durer la crise. Et en situation d'incertitude, ce qui peut être bon pour le cerveau, c'est de recréer, artificiellement, mais de recréer des limites de temps. Comme on ne sait pas combien de temps ça va durer, comme on ne sait pas combien de temps on va devoir vivre différemment, c'est intéressant de recréer en fait une projection et donc une division du temps. Qu'est-ce que ça va permettre? Puis après je vais vous expliquer comment on fait, mais qu'est-ce que ça va permettre? C'est de redonner à la personne un sentiment de contrôle. Si vous divisez la semaine à venir, imaginons que pour vous ce qui est vivable c'est de vous projeter sur 3 jours, vous allez dire, eh ben voilà, pendant les 3 jours à venir, je vais faire et vivre de cette manière. Et à la fin des 3 jours, je vais me dire, eh ben voilà, je réévalue, comme le confinement ou comme la situation n'est pas terminée, comme je dois toujours continuer à travailler au contact de la maladie, eh ben pendant les 3 prochains jours, je décide de vivre à nouveau d'une manière difficile. Donc il y a des personnes qui vont avoir besoin de diviser le temps en journées, parce que pour eux, c'est la journée qui est déjà difficile à vivre, donc ils vont se dire, ben voilà, je vis cette journée de cette manière-là et je reverrai demain comment je fais. Il y en a qui vont avoir besoin de 3 jours, d'autres 4, d'autres une semaine. Moi, je sais qu'en ce moment, j'ai besoin de me dire, ben voilà, cette semaine, je la planifie de cette manière-là. je me mets des routines en place, etc. sur la semaine et je réévaluerai ma projection à la fin de la semaine. Je me dirai, bah voilà, selon ce qui est annoncé, selon voilà, de quelle manière est-ce qu'on nous informe, je me projetterai à nouveau peut-être sur une semaine. Et en fait, ça vraiment, ça redonne un sentiment de contrôle. Donc vous allez utiliser des temps plus courts si vous en avez besoin, ou des temps plus longs selon le besoin que vous avez de diviser votre temps. Voilà. Et même si vous avez besoin de répéter plusieurs fois ces divisions, donc 3 jours, puis à nouveau 3 jours, puis à nouveau 3 jours, c'est ça en fait qui va avoir un effet apaisant pour vous. Hein. Donc vous choisissez le laps de temps qu'il vous faut pour vous dire, voilà, si je me projette sur 2 jours, ou 3 jours, ou 4 jours, ou une semaine, là c'est vivable pour moi et je peux organiser mon temps à l'intérieur de ce laps de temps, de ce nombre de jours ou d'heures. Ok ? Et en fait, cette proposition-là, elle est possible à la fois pour les professionnels qui sont au cœur de la tourmente, ça peut être aussi pour ceux qui sont mobilisés et qui vont en fait manquer d'informations, hein, qui ont du mal à savoir qu'est-ce qui va se passer après, qui, même s'il n'y a pas de possibilité en fait de savoir de quelle manière est-ce que ça va se passer, quand est-ce que ça va s'arrêter et quelles vont être leurs actions. C'est une possibilité pour eux et elles de gérer les forces, voilà, et de savoir de quelle manière ils s'investissent sur cette journée, ou ces 2 jours, ou ces 3 jours. Ce découpage du temps, donc, ça va être bénéfique pour ces personnes-là aussi. Comment elles peuvent faire pour mieux se projeter ? Il y a des choses à utiliser. C'est-à-dire que même si elles sont dans le feu de l'action, il y a des petites informations qu'elles peuvent utiliser, ces personnes-là. Donc si vous êtes dans le feu de l'action, vous pouvez utiliser par exemple les données que vous avez sur les temps de roulement, si vous devez vous relayer avec quelqu'un. Donc les relais, les roulements, la manière dont on vous a expliqué qu'on découpera la journée, s'il y a des temps de pause, je ne sais pas, si vous avez des temps pour pouvoir aller dormir. Vous pouvez utiliser aussi des informations plus générales qui est ce qu'on nous a diffusé de la notion d'un pic de crise qui puisse arriver. Donc là aussi, ça va vous donner une possibilité de vous projeter, de savoir qu'il va y avoir un temps fort, puis peut-être du coup à la suite un temps où on va pouvoir davantage se reposer. Tout ça, ce sont des facteurs que vous pouvez utiliser pour vous projeter. Moi-même, je ne suis pas mobilisée encore de cette manière, même si on m'a laissé des pistes pour me dire que effectivement, il serait possible par la suite que je sois mobilisée de cette manière-là. Actuellement, je travaille toujours en EHPAD et le reste du temps, je suis en confinement avec ma famille. Ce qui va m'aider, c'est par exemple de pouvoir utiliser, en fait, identifier ces temps-là, ces temps forts, pour pouvoir savoir comment rendre par exemple ma journée en EHPAD plus vivable, et ça va être de savoir que ça commence à telle heure et ça finit à telle heure. Ça, c'est pas possible pour tout le monde actuellement, mais il y a d'autres informations. Essayez de chercher les petites informations qui vous permettent de vous rendre le moment plus vivable et de savoir qu'il y a un moment de début, un moment de fin, même si c'est pas une fin définitive, mais ça peut être un petit temps de pause, un relais, quelque chose comme ça. Utilisez ces informations-là. L'autre chose qui peut être super important quand on travaille en équipe, même si on doit garder de la distance, ça va être le soutien de vos collègues, ça va être le soutien des proches, ça va être les choses qu'on va voir d'ailleurs un petit peu plus loin et qui vont vraiment vous aider à accepter ce que vous êtes en train de vivre qui est difficile. Alors il y a un élément qui est vraiment complémentaire de cette notion de division de temps, c'est la technique des routines. Voilà. J'entends aussi beaucoup « mes habitudes me manquent et j'en suis déboussolée ». Oui, on n'a plus les mêmes habitudes qu'avant, parce qu'on est soumis à une règle, à une loi qui est qu'il y a des choses qui ne sont plus autorisées. Eh bien, la notion de routine, c'est quelque chose qu'on peut se réapproprier, s'approprier et qu'on ne peut pas nous enlever. Et ça, ça nous remet aussi dans quelque chose d'une maîtrise et d'un contrôle. En situation de crise, c'est vraiment important. Donc ça complète la notion de division du temps, c'est que dans ce temps que vous vous êtes octroyé, cette projection de quelques jours ou plus, vous allez pouvoir mettre en place des routines et c'est quelque chose qui est bénéfique pour le cerveau. D'ailleurs, vous l'avez peut-être fait naturellement, c'est-à-dire que comme vous n'aviez plus les mêmes habitudes qu'avant, vous avez dû vous réapproprier ce qui vous était autorisé et votre laps de liberté que vous aviez pour en refaire peut-être naturellement une nouvelle routine. Et effectivement, le cerveau, comme il a besoin d'habitude, il a besoin de quelque chose qui se répète pour être rassuré. Parce qu'en fait, la routine, c'est vraiment quelque chose qui rassure. Parce qu'en fait, on sait ce qui va arriver après. Et donc, ça permet vraiment de s'apaiser. Donc, la réassurance et le réconfort de la routine, c'est vraiment quelque chose qui est très bénéfique en situation de crise. En fait, on rend le temps et le déroulement de la journée prévisible. Et c'est ça qui va faire redescendre notre niveau de stress. Comment on compose une routine ? Ben là encore, vous allez faire en fonction de vous. C'est-à-dire que ça va être composé de gestes ou d'activités. Souvent, vous pouvez alterner les activités obligatoires, on va dire, avec des activités plaisir. Là, j'y reviendrai, mais la notion de plaisir est très importante en situation de crise. Il faut retrouver des moments où vous prenez du plaisir ou quelque chose de plus léger que ce qui est obligatoire. Donc, on y reviendra après. Donc, la routine, c'est introduire, par exemple, des tâches ou des activités qui vont être bonnes pour votre physique. Donc ça va être par exemple l'exercice physique, l'hydratation, l'alimentation, les soins que vous apportez pour vous. Donc tout ça, c'est des pistes d'activités que vous pouvez introduire dans votre routine. Donc ça va être, je sais pas, je dis bêtises, mais vous devez boire vos 2 litres d'eau dans la journée. Et ben, dans votre routine, vous allez vous faire des temps de pause où vous allez prendre votre verre d'eau, par exemple. Ou vous allez vous dire que chaque soir, à 19h, vous aurez dégagé du temps en accord avec vos proches pour faire une demi-heure d'exercice physique. Ou vous allez vous dire que chaque matin, vous allez prendre 5 minutes pour prendre une douche chaude et relaxante. Voilà, donc tout ça, c'est des pistes d'activités pour que vous pouvez ajouter à votre routine. Vous avez besoin aussi d'activités pour votre bien-être mental. Donc ça peut être, on le verra la semaine prochaine, l'écriture d'un journal. Ça peut être des discussions avec des proches. Vous pouvez vous dire, voilà, à 14h, j'appelle ma sœur, j'appelle mon amie pour échanger, prendre du plaisir à entendre une voix chaleureuse et agréable, pour donner des nouvelles aussi, voilà, créer du lien à nouveau. Ça peut être un temps de préparation de repas, seul ou avec vos proches. Ça peut être des temps de jeu. Ça peut être aussi des choses moins concrètes, mais tout aussi bénéfiques, qui peuvent être les exercices de visualisation, de méditation. Ça peut être de l'écoute de musique. Voilà, toutes les petites choses plaisir aussi que vous pouvez introduire et qui sont vraiment du soin de votre mental. L'introduction de ces routines, c'est vraiment ce qui va vous permettre de recréer des limites dans votre journée, de scander le temps et en fait de recréer un environnement qui vous sera un peu plus familier et un peu plus rassurant. Vous pouvez trouver des idées d'activités dans l'article « Des plaisirs de secours » à l'intérieur du blog. Voilà, vous cherchez « plaisirs de secours » et en fait c'est un article où on apprend à lister, à se faire une petite boîte à activité plaisir qu'on va consulter en fait au besoin. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de cet article si vous en avez envie. Vous pouvez aussi laisser sur le blog vos propres idées de routine. Il y a déjà des personnes qui ont commencé à laisser des idées. Voilà, n'hésitez pas à partager avec nous, avec les lecteurs, avec les auditeurs, d'autres idées que vous auriez à partager d'activités qu'on peut introduire dans une routine et qui font du bien. Et il est long hein, ce podcast, alors j'espère que vous avez pensé à prendre un thé ou un café. Si c'est pas fait, allez-y. Hein. On en a encore pour quelques pistes de solutions. Donc on va passer maintenant à une tournure d'esprit. Donc là, on est plus dans quelque chose d'impalpable, mais qui est vraiment très puissant. C'est la manière dont on va percevoir ce qui se passe. On l'appelle donc « je choisis plutôt que je dois ». Parce qu'en fait, j'entends des personnes qui me disent que c'est difficile pour eux de vivre ce qu'on leur impose. Ouais, il y a des règles, il y a des lois, il y a le fait que la crise, ben voilà, on peut plus agir et vivre comme on voulait parce qu'on sait que ça va avoir des répercussions et donc il faut qu'on se soumette à certaines règles. Et pour certaines personnes, c'est hyper dur de se voir imposer des règles. Donc là où il y a de la règle, de la loi, là où il y a le civisme, en fait, potentiellement, il va y avoir des frontières et des limites qu'on doit s'imposer. Fondamentalement, l'être humain, il n'aime pas être contraint. En fait, il supporte pas qu'on le force à faire des choses ou qu'on lui impose de faire des choses. Ça, c'est naturel. Il y en a chez qui c'est plus exacerbé que d'autres. Et en fait, la manière dont on va réagir en tant qu'être humain, donc c'est plus ou moins exacerbé chez une personne ou l'autre, mais ce que ça va convoquer chez nous, parfois, ça va être des envies soit de fuir, c'est-à-dire d'essayer d'éviter les règles et les limites, soit de transgresser. Donc ce que ça crée, en fait, ce qui fait que ça nous met en fuite ou en transgression, c'est à nouveau cette question d'équilibre. Hein. On est en déséquilibre quand on sent qu'on nous impose des choses, donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On fuit ou on transgresse? Et donc pour essayer de solutionner ça, c'est qu'en fait on sent une tension qui n'est pas agréable en nous, et donc on va essayer de mettre en place des mécanismes pour l'éviter. Et donc pour essayer de sortir de cette situation difficile de tension, parce qu'on nous impose à tous là des règles et des limites à ne pas franchir, pour éviter d'avoir à fuir ou à transgresser, on va essayer de penser les choses différemment. Voilà. Et ça va nous permettre de traverser plus sereinement la situation. Donc, la situation d'obligation, comment la vivre différemment, comment la penser différemment? Donc, la notion que je vais vous présenter là, je choisis plutôt que je dois, c'est quelque chose qui provient de l'approche de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Donc, vous pouvez lire, là où moi je l'ai connu, c'est dans son ouvrage « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Et en fait, ça c'est vraiment un ouvrage très très complet de l'approche CNV. La CNV, c'est donc communication non violente. Et c'est vraiment quelque chose de très puissant. Je vais vous donner un exemple. Donc, plutôt que de vivre les choses en se disant « on m'oblige à rester enfermé », le fait de penser « je fais le choix de rester chez moi », par exemple, donc pour épargner mes proches, pour épargner les êtres humains en général, pour donner moins de charges de travail aux soignants, pour éviter de mettre en danger de mort les personnes vulnérables, etc. Le fait de le penser de cette manière-là, ça va nous redonner la situation en qualité de choix. C'est-à-dire que ça ne va plus être quelque chose d'imposé, mais ça va être quelque chose d'un sens qu'on donne à la situation. On ne m'oblige pas à rester enfermé, je choisis de rester chez moi. Cette tournure d'esprit, elle est vraiment très puissante. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut retrouver même ailleurs, hein. Je sais que Marshall Rosenberg, dans son livre, il parle de la situation où en fait il doit faire je ne sais combien de minutes, voire peut-être d'heures, de transport de ses enfants chaque matin et chaque soir. Il emmène ses enfants dans une école, qui est une école très particulière qu'il a choisie par rapport à la qualité d'enseignement et de pédagogie qu'elle offre à ses enfants. Et en fait, oui, il y avait une école de quartier. Oui, ça lui prend énormément de temps d'y aller. Parfois, il peut penser quelle contrainte ça peut être de faire toutes ces minutes et ces heures de transport. Pour autant, quand il se dit « je choisis d'emmener mes enfants là-bas parce que je sais qu'ils vont avoir une éducation, des apprentissages de qualité et un accompagnement bienveillant », ça change tout. C'est pas une contrainte que de faire des, je sais pas moi, 45 minutes, une heure pour emmener ses enfants. Non, il sait que ça a un sens pour lui et pour ses enfants, et donc il va le faire avec davantage de légèreté. Cette approche du choix, vraiment, c'est aussi une grande solution contre les ruminations. Ça redonne du sens à nos actions quotidiennes. Et c'est vraiment, enfin je l'ai dit peut-être 3 ou 4 fois là, mais c'est vraiment puissant. Donc essayez vous aussi de transformer ce qu'on vous impose en quelque chose que vous avez choisi. Ça marche pas pour tout. Et du coup, c'est très intéressant, ça. Parce que quand on essaye de transformer une obligation en un choix, et que ce choix, en fait, ça fonctionne pas. On se dit, mais non, mais en fait, je choisis de faire ça, mais ça n'a aucun sens. Et bien là aussi, ça peut... Bon, c'est peut-être pas le moment, mais ça vous permet vraiment de refaire le point sur ce que vous mettez en place dans votre vie, ce qui a du sens et ce qui n'en a pas. Et vous allez garder, en fait, toutes les choses qui ont du sens, et vous allez éliminer toutes celles qui n'en a pas quand vous en avez la possibilité. Bref, là, j'ouvre des parenthèses. Donc, transformer une obligation en choix, c'est vraiment quelque chose de très bon. Et on le voyait tout à l'heure, bah, transformer une obligation en un acte altruiste, par exemple, et humain, c'est ce qui se passe quand vous restez chez vous, pardon. Ça épargne vos semblables, ça épargne les malades et ça épargne ceux qui les soignent. Un autre axe possible, c'est le lien aux autres. J'en ai parlé dans un article sur le lien aux autres, sur le blog, vous cherchez aussi dans les techniques à piocher, sur le lien aux autres. Là, le confinement, les lois qu'on nous impose, tous les scientifiques et les psychologues sont d'accord pour dire que c'est une catastrophe au niveau émotionnel, au niveau de notre cerveau, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vont être isolés et qui n'ont pas la possibilité d'être au contact physique avec d'autres. C'est-à-dire que, on le sait, le cerveau, il a besoin d'être en lien, mais pas en lien seulement par le téléphone ou la vidéo, parce qu'en fait, par le lien vidéo et téléphone, il y a plein de choses qui passent pas, en fait. Le cerveau, il a besoin de la connexion physique, il a besoin visuellement de voir les gens. Il y a un échange qui se passe dans le regard qui est très fort. Et en fait, au niveau neuronal, vraiment, les échanges qui se passent quand on est en échange avec quelqu'un physiquement, en face à face, je veux dire, hein, dans un échange de paroles en face à face, c'est quelque chose qui nous nourrit profondément. Et en fait, la situation de confinement, là, elle ne nous permet pas ça. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que on n'a pas le top du top qui est d'être proche la plupart du temps de ceux qu'on aime. Donc, même si dans le quotidien, on va vous dire que le téléphone, internet, c'est pas le top pour être en lien avec les autres, et bien là, on s'en fiche. En ce moment, tant que vous pouvez pas faire mieux, il est fondamental d'essayer de garder un maximum de contact avec vos proches ou de créer même du contact avec d'autres personnes, parce que l'être humain, il a tellement besoin de ça que c'est votre nourriture presque, j'allais dire première, non, il y a d'autres choses aussi importantes, mais on a vraiment besoin de ça. Donc toutes les occasions que vous allez avoir de pouvoir échanger avec vos proches, avec des amis, avec des nouvelles personnes, avec des personnes soutenantes, bienveillantes, allez-y à fond. Voilà, vidéo, téléphone. C'est vrai que quand vous pouvez avoir la vidéo, c'est vraiment encore mieux parce que vous pouvez quand même voir les personnes. En fait, j'ai découvert vraiment avec étonnement cette semaine à quel point seulement une conversation, vous allez rire, hein, mais j'ai fait une vidéo, enfin j'en ai fait plusieurs du coup depuis, mais des vidéoconférences avec des collègues de travail pour continuer à travailler sur des situations, et ben c'est fou, comme même si le sujet qu'on abordait, vu la crise, il n'était pas du tout joyeux, pour autant c'était magique l'effet que ça pouvait avoir de l'échange en fait pendant cette vidéoconférence. Ça produit vraiment des choses pour notre cerveau, on le sent, et pour notre cœur et pour notre cerveau. Ça nourrit vraiment et ça apporte vraiment du mieux-être. Donc allez-y, même si c'est des conférences de travail, etc., des vidéos pour échanger sur quelque chose du quotidien, allez-y à fond, vraiment. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est la notion d'influence. Là aussi, j'en ai parlé dans un article. Allez-y aussi pour voir comment se protéger des médias dans ces situations-là, parce qu'en fait, les médias, elles vont avoir tendance, d'essayer de diffuser, alors certes parfois selon qui ils sont, des informations très intéressantes et très bénéfiques pour traverser le moment. Et il y en a beaucoup qui marchent sur le catastrophisme, sur l'angoisse, sur... En fait, ils utilisent tout ce côté émotionnel pour pouvoir faire parler d'eux. Et en fait, c'est pas vraiment des médias qui vont diffuser de l'information intéressante, ça va être vraiment ceux qui vous font creuser dans vos émotions négatives, etc. Et bah, ces influences-là, stop. Pendant la crise, stop. Hein. Même, voilà, quand j'ai écrit l'article auquel je fais référence, même en temps normal, si jamais vous êtes fatigué, si vous avez tendance à l'anxiété, aux ruminations, etc., déjà, à la base, il faut les fuir. Mais là, encore plus maintenant, dans la situation de crise. En fait, vous allez vous préserver en bannissant et en vous protégeant de ces médias-là. C'est facile à reconnaître, hein. C'est ceux qui vont vous laisser dans l'anxiété, dans l'angoisse, qui vont vous paniquer, des petits... Je sais pas, ça peut être même audio, hein. J'ai vu circuler des choses audio qui étaient très anxiogènes, des vidéos alarmistes... Non, moi ce que je peux vous fortement vous conseiller et qui fonctionne pour moi et qui fonctionne pour beaucoup de mon entourage et des personnes auxquelles... j'ai diffusé cette information, c'est vraiment d'aller vers des sources d'informations neutres, des sources valides, On a celle du gouvernement, des institutions de référence scientifiques, des publications spécialisées, des choses qui sont validées. Voilà, tournez-vous vers ces contenus-là et aussi vers des contenus qui vont vous apporter de l'espoir, ceux qui vont apporter de la bienveillance, toutes celles qui vont prôner plutôt quelque chose de l'union entre les êtres. Voilà. Au fil de... Donc moi, je vais beaucoup là en ce moment sur Internet pour chercher des pistes. Et par exemple, j'ai trouvé justement le mouvement du colibri que je connaissais déjà depuis de nombreuses années. Mais ils ont créé par exemple un lien de fraternité que j'ai mis sur le blog, hein, Fraternité Covid-19. Et en fait, ils mettent plein d'astuces pour diffuser du bien-être, des activités agréables, des choses qu'on peut utiliser au quotidien pour mieux traverser ce moment. Il y a aussi des groupes Facebook, il y a énormément... Il y a Isabelle Padovani qui a créé un groupe en ce moment pour diffuser, ça s'appelle Au service de la vie, pour diffuser aussi des activités, des notions de bienveillance et de bien-être. Donc allez plutôt vers ces liens-là. Je n'ai pas d'intérêt particulier ni de soutien particulier pour celles que je viens de vous citer. Hein. C'est vraiment... Je vous livre en fait là les choses que j'ai trouvées dernièrement. Il y en a certainement bien d'autres. Et du coup, n'hésitez pas à les laisser sur le blog, à me les mettre en commentaire ou me les envoyer par mail. Ça m'intéresse beaucoup. Donc là, on va voir ensemble encore quelques petites pistes. Donc il y a une chose qui peut être importante aussi. Souvent, on peut dire j'ai l'impression... En fait, d'être tout le temps contractée là, par cette situation qui se passe, je serre les dents constamment, j'ai l'impression de ne pas respirer correctement. En plus de ça, c'est un des symptômes qu'on retrouve dans le virus. Donc, il y a des personnes qui vont encore plus paniquer, c'est-à-dire que l'anxiété va faire qu'on bloque ou qu'on s'essouffle davantage la respiration. Et en plus de ça, ça va nous connecter avec ce qu'on entend de partout, qui est que ça peut être un symptôme. Donc ça envenime, ça crée un cercle un peu vicieux. Donc il y a des personnes comme ça qui vont être stressées, qui vont avoir du mal à respirer dans cette situation-là. Et je parle pas de la maladie, mais vraiment du symptôme qu'on se crée par l'anxiété. Et il va y avoir aussi les gens qui vont déprimer. Et en fait, je pars du principe qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que c'est pas toujours possible au moment où on le souhaiterait tout de suite là, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir faire quelque chose de plaisir. Mais essayez vraiment de saisir ces petits moments de lâcher prise, malgré tout. Même si c'est pas possible à tous les moments de la journée, et je le sais que pour la plupart d'entre nous, c'est vraiment difficile de trouver ces moments, mais essayez de les convoquer, de les amener, de les instiller. J'en parlais il y a pas longtemps à une famille, je disais, mais essayez de scander votre semaine ou votre journée en disant « Ben voilà, à un moment donné, stop, on fait un jeu ensemble. » Ou on va regarder quelque chose de drôle, on va regarder un film agréable, on va lire des histoires, on va... Voilà, essayez en fait, que ce soit seul ou avec vos proches, de vous saisir de petits moments, des occasions pour vous octroyer du plaisir, des moments de joie, des temps de ressourcement. D'ailleurs, il y avait un article sur le blog aussi sur le rire. Essayez d'aller le lire, ça va vous apporter aussi des informations sur les bienfaits du rire. Ce que ça fait, toutes ces petites pistes de lâcher prise et de bonheur simple, c'est que ça va apporter en fait un bien-être immédiat et aussi sur le long terme, parce qu'en fait, ça va donner de la ressource. En fait, plus vous allez avoir de moments comme ça plaisir, plus vous allez les emmagasiner en vous, plus votre cerveau va se sentir mieux et vous arriverez petit à petit à la mener plus sur le long terme. C'est un bonheur momentané, mais c'est aussi une nourriture pour le plus long terme. C'est bénéfique pour l'organisme, vraiment. Et puis, je vais finir par une dernière technique qui est celle qui, pour moi, est essentielle, parce qu'on parlait d'émotions, et les émotions, on sait que elle nous dépasse et elle nous submerge si on est en situation de fatigue. Donc la technique que vous devez peut-être retenir le plus de cet article, même si je vais la passer rapidement parce que j'ai déjà écrit un article là-dessus et qu'il y en aura certainement d'autres, c'est le sommeil, le repos. On n'arrive plus à penser, on fait n'importe quoi quand on est fatigué. Quand on est épuisé, n'en parlons pas. Donc vraiment là je termine par ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment ce repos, cette notion de sommeil. Un maximum, reposez-vous quand vous avez un petit moment. Des siestes, peut-être, un sommeil de nuit de qualité. Ce que vous pouvez faire, c'est de mettre en place un système comme... alors là, les parents qui ont eu des enfants... Forcément, les parents ont eu des enfants. Oui, c'est sûr. Alicia, tu dis n'importe quoi. Pour les parents, ça va parler. Quand les enfants sont petits, qui font pas encore leur nuit, il y a quelque chose qui est préconisé, c'est de faire des roulements, en fait. De pouvoir se dire que papa ou maman, ou l'un des deux parents en tout cas, dort pendant que l'autre veille pour se réveiller, pour donner à manger ou autre, ou pour aller consoler. De la même façon, on peut décider en famille de se dire « Je vais dormir, par exemple, en mettant des boules quies dans une chambre très au calme, pendant que toi tu veilles sur les enfants, si c'est la journée, ou pendant que toi tu veilles sur je ne sais quoi, si jamais on craint quelque chose. » La personne peut dormir paisiblement, et ensuite on se dit « Eh ben la nuit prochaine, ce sera l'autre parent qui pourra le faire. » Voilà. Et ça vraiment, c'est des sommeils de grande qualité, parce qu'en fait, on sait qu'il y a quelqu'un qui veille, si jamais, et on sait que le lendemain, on aura plus de force et d'énergie. Et la personne qui est en train de veiller et qui est sur le pont, elle sait que le lendemain, elle aura un sommeil elle aussi de qualité. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'on tient le plus possible, c'est en se donnant du relais. En manque de sommeil, votre cerveau, il réagit vraiment pas du tout de la même manière au stress. Je le disais toujours, tout à l'heure, pardon. Il maximise en fait tout ce qui est biais cognitif. C'est-à-dire que plus vous allez manquer de sommeil, plus vous allez être happé par le catastrophisme dont on parlait tout à l'heure, la surgénéralisation, et ce qui fait que ça augmente les ruminations, les impressions d'être en détresse, etc. Donc ça va augmenter vos effets d'anxiété. Le manque de sommeil, ça va vraiment bloquer aussi quelque chose de très important, surtout si vous êtes là sur le pont à essayer de juguler ce qui se passe au niveau de la crise. Le manque de sommeil, il bloque la capacité de mémorisation, il bloque la capacité de résolution de problèmes. Donc vous ne pouvez pas agir correctement si vous manquez de sommeil. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de très important de veiller à un bon sommeil. Vous n'avez pas tous là, en ce moment, la possibilité de le faire, parce que bah justement, il y a des personnes qui manquent énormément de sommeil parce qu'ils sont, mobilisés très souvent. Pour autant, du mieux possible, je pense qu'il faut arriver du mieux possible à trouver des temps de repos, même si ce sont des siestes pendant quelques temps. Voilà, essayez vraiment de trouver un sommeil de qualité pour pouvoir recharger vos batteries. C'est tellement, tellement, tellement important. Et même si vous avez l'impression de pouvoir tenir le coup et que vous vous dites « Non, non, mais là, ça va aller, je vais prendre sur moi, etc. » Là, ne vous faites pas avoir par cette tendance à vouloir prendre sur soi. D'abord le soin, d'abord le sommeil, et après, la disponibilité pour ce qui se passe autour de vous. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup aux courageux qui m'ont écouté jusque-là. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce que j'ai pu vous transmettre. Certainement qu'il y a des choses qui passent à côté de ce que vous avez besoin en ce moment. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec les situations concrètes que vous vivez, si je peux vous apporter des choses complémentaires. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou qui vous paraissent à questionner, n'hésitez pas aussi à me laisser un message. Et je prendrai vraiment beaucoup de plaisir à vous répondre et à essayer de vous apporter tout ce que je peux en cette situation un peu difficile. Je vous souhaite la meilleure semaine possible pour vous, pour vos proches. La meilleure santé possible aussi, et au plaisir vraiment de lire vos retours en commentaire et de partager avec vous plus tard encore d'autres pistes de solutions sur 36 solutions contre l'épuisement. N'hésitez pas à vous abonner au blog. À très bientôt.